Ce n'est qu'à l'intérieur de ce cadre élargi qui intègre considérations techniques du cinématographe et considérations spirituelles que nous réussirons à nous sortir de nous-mêmes. Apichapung Verastakul, c'est la fin, opère à travers les corps l'accès à un autre espace, à une altérité qui permet de devenir autre. On peut devenir animal, femme, mort, revenant. Chacun de ces films tente à restituer les liens, à restaurer les échanges, les circulations, la porosité, la transmigration entre humains, plantes, animaux, fantômes. Oncle Bonnemay montre le rapport entre homme et animal et en même temps détruit la ligne qui les sépare. Je cite encore Verastakul pour terminer. Il pourrait bien y avoir de mystérieuses forces en attente d'être révélées, exactement de même que certaines choses dites de magie noire se sont révélées comme des faits scientifiques. Pour moi, faire du cinéma reste une source d'un ensemble dont nous n'avons pas vraiment utilisé l'énergie, de la même manière dont nous n'avons pas sérieusement expliqué le travail interne de l'esprit. Donc il s'agit donc en tant que spectateur d'étoffer sa gamme de perceptibilité, pour articuler une possible constitution d'un être ensemble, un animisme politique en somme. Voilà.
Merci Stéphanie. D'abord, qui est une grande connaisseuse aussi d'Apichapong, qui veut te poser une question, faire un commentaire, c'est Juliana. pouvez-vous parler un peu plus à propos de la relation entre Tropical Malady et le perspectivisme amérindien, parce que je pense que c'est la même chose. Et j'ai demandé ça à Eduardo Viveiros de Castro. Et il m'a dit que les cosmologies du sud d'Asie, c'est la même que de l'Amazonie, que c'est ce type d'animisme, de perspectivisme, est quelque chose qui va de Sibérie, de Sibéria, à l'Amazonie.
Exactement.
Et je pensais aussi à quelque chose que Deleuze dit dans l'image temps, cinéma 2, quand il dit que... C'est pour ça que je me chame le cellulaire. Quand il dit que... quand il parle de l'acte de fabulation, et de l'acte de fabulation, c'est... Il dit que... deixa eu achar, só minutinho. Ah, il dit ça. Ce qui s'oppose à la fiction n'est pas le réel, n'est pas la vérité, qui est toujours celle de le maître ou de colonisateur, mais la fonction fabulatrice des pauvres, dans la mesure en qui elle donne les fausses, la puissance qui fait dire en mémoire, en légende, un monstre. Et je pense à des monstres de Apichatpong. Et Apichatpong, à propos d'un Kobumi, il a écrit qu'il y a un state, director's statement en qui il dit que. Il commence comme ça. Je croyais dans la transmigration des âmes entre des hommes, des animaux, des plantes et des esprits. Âmes et esprits sont des choses différentes. Les âmes des esprits pour transmigrer pour les hommes. Enfin, si vous pouvez parler un petit peu de ça.
Je reprends un petit peu pour Tropical Malady. Déjà, ce qui est très beau, c'est qu'il a construit son film à partir d'une gravure qui appartient à la mythologie thaïlandaise. Sur cette gravure, en fait, il y a un tigre. Du coup, c'est intéressant parce que d'une langue à l'autre, tigre peut changer de... On ne sait pas si c'est un lion, une panthère, un tigre, un jaguar. Donc ça, ça circule. On va dire un tigre qui est posté sur un arbre, qui tire la langue. Et il y a un jeune homme qui est agenouillé en fait, au sol, avec une sorte d'auréole. Et du coup, la langue du tigre fait le lien entre l'animal et l'homme. Et du coup, c'est quand même une sorte de cliché qui sera arrêté dans un moment... on ne sait pas en fait qui va prédater qui. Donc dans un moment de parfaite communion entre les deux personnages. Mais c'est intéressant parce qu'on ne sait pas à l'instant d'après ce qui va se passer. Et le film Tropical Malady est construit en deux parties. Et les souvenirs de la première partie viennent nourrir les souvenirs de la seconde partie. Donc c'est dans un échange réversible permanent entre deux temporalités.
Qu'est-ce que vous pensez ? Quelle est la relation entre les deux parties ?
Alors du coup, je vais peut-être répondre après.
C'est le désir.
Oui, exactement. Parce qu'en fait, Tropical Malady, il s'agit donc l'histoire d'amour de deux personnages, un jeune garçon et un soldat. Et du coup, un des deux personnages disparaît dans la forêt. Et au moment de la disparition, il y a plusieurs têtes de bétail du village qui disparaissent également. Du coup, le garçon part chercher en fait son amant dans la forêt. Et en fait, on se rend compte que... Il y a une sorte de tension constante. On ne sait pas, en fait, lui, il est en train de le chercher. L'animal est aussi en train de le guetter comme une proie. Et du coup, on ne sait pas comment... Enfin, du coup, c'est très beau ce qui se tisse, justement, pour le coup, des relations d'échange de points de vue et de prédation entre les deux personnages.
La prédation aussi comme désir.
Exactement. Puisque de toute façon, voilà, moi je pense bien moins que toi, mais ce qui est intéressant, c'est que dans les sociétés amazoniennes, les relations entre personnes se définissent vraiment comme des relations entre ennemis, donc ça n'a absolument rien de péjoratif. Et donc voilà, les rapports se font entre questions de prédation et de rapports entre ennemis. Voilà. Merci.
Quelqu'un d'autre pour poser une question, faire un commentaire ? Émilie ? Merci. J'avais une question sur ce que tu présentais comme recherche. Savoir que plus d'explicitations que je comprenne mieux. Tu disais que tu travailles sur le cinéma et l'animisme, sur les liens entre les deux, et tu as beaucoup donné des exemples de films qui, eux, ont, on pourrait dire, une perspective animiste, au sens large du terme. Et ma question, c'était... Enfin, c'est une question débile, je m'excuse, mais c'était... en fait, c'est, pour toi, c'est le cinéma comme mode formel d'art, ou je ne sais pas, qui est animiste ou, enfin, tu t'intéresses au cinéma en tant que forme animiste.
En tant que dispositif, plutôt.
Donc, je veux dire, c'est tout le cinéma ou alors tu vas t'intéresser aux films qui, eux, ont une perspective animiste ?
Oui, c'est une très bonne question.
Parce qu'il y a plein de films qui ne sont pas du tout... c'est à peu près la majorité, en fait.
Non. Alors, peut-être... j'espère que je vais bien m'exprimer, mais... peut-être que dans le dispositif même... C'est pour ça que j'étais remontée au début du XXe siècle. Dans le dispositif même, en fait, l'idée d'avoir une image en mouvement, presque qui se génère elle-même... je trouve qu'il y avait quelque chose quand même de l'ordre de l'animisme, enfin dans le cinéma en général. Et après, en effet, après j'ai accentué mes recherches. C'est pour ça qu'au départ, c'était plutôt une approche théorique. Et après, j'ai parlé de Happy Chapung parce que particulièrement, ces questions sont au cœur de son travail. Donc c'est plutôt comment je parle au départ de plus de considérations sur la machine technique. Et après, plus dans les films, comment ces questions d'animisme, de circulation d'âme, de modification du spectateur, de consistance de l'image, arrivent plus particulièrement. Mais après, je pourrais avoir d'autres exemples de films également. Voilà.
Mais au-delà de films précis, c'est vraiment le processus cinématographique en tant que tel, voire qui renverrait à ces notions perceptuelles ou je ne sais, qui, sur le plan des arts plastiques et visuels, renvoie des expériences de type immersif, processus immersif. C'est-à-dire que ce qui a été créé il y a plus d'un siècle reste encore un dispositif propice à modifier les états de la conscience, à travailler comme un outil potentiel de transformation. au-delà des contenus même et des films.
Oui, exactement, c'est exactement ça. D'ailleurs, Mireille Berton parlait de presque de séances au début du siècle où ils emmenaient des gens qui souffraient de problèmes nerveux au cinéma, pensant que les ondes, en fait, allaient avoir un impact sur leur corps et pouvoir les apaiser. Donc, voilà. Et après, je trouve que dans l'ensemble, dans la salle de cinéma, il y a eu pas mal de recherches sur cinéma hypnose, mais dans l'ensemble, dans tous les films, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui s'opère, le fait d'être dans un lieu obscur, d'être une communauté en train de regarder quelque chose. Il y a quelque chose qui circule entre les gens. Et du coup, pour moi, le cinéma devient vraiment une sorte de véhicule, en fait, pour passer des images, pour échanger des points de vue, pour avoir de l'empathie aussi.
La même interrogation, Camille. Allô, allô. Bordine. J'avais la même interrogation, Camille.
Oui.
Est-ce que tu peux te filmer également de manière, on va dire, animiste ou animique? Et je me demandais si tu connaissais le travail de Jean Pinlevé, qui est comme un cinéaste scientifique, mais comme avec un regard assez poétique ou voire animiste sur les objets qu'il filme, et où tu le mettais dans ton échelle.
Bon, pour l'instant, Pinlevé, encore une fois, moi je suis artiste, donc c'est vraiment des notes de travail. Hein, j'ai l'impression que ça concerne plus la question de réflexions qui ont été posées en anthropologie sur la question aussi de la manière dont la personne qui vient poser la caméra vient aussi modifier en fait ce qui est en train de se passer devant la caméra. Donc ça veut dire qu'en fait on amène toujours une subjectivité dans la chose qu'on enregistre. Et j'ai l'impression que lui, il est à la charnière comme ça entre vraiment un contexte, je sais pas, de films de Jean Rouch qui posait vraiment cette question d'anthropologie, et en même temps de la pure poésie. Donc je le sens vraiment inscrit dans cet entre-deux en fait. Peut-être je me trompe, c'est juste une intuition. Voilà.
Et pourtant, il est pionnier pour tout ce qui est, pas micro-caméra, mais plan, oui. Plan sous-marin.
Oui, mais du coup, ça rejoint les techniques aussi des anthropologues qui vont poser leur caméra et essayer d'être au plus près du réel, en fait, en intervenant le moins possible.
C'est vrai.
Donc, il y a des questions techniques qui viennent prendre en compte. C'est pour ça que je pense qu'il est aussi bien technicien, dans ce presque scientifique, que poète.
Voilà. OK.
Stéphanie, tu rappelais à juste titre que tu es artiste, sauf erreur de ma part, pour l'instant il n'y a pas encore de film dont tu travailles. Mais justement. Je me demandais du coup, est-ce que cette recherche que tu fais actuellement depuis un moment, notamment pour le labo mais pas seulement, ça t'inspire quelque chose? Est-ce que tu penses aller vers le film? Est-ce que, ou pas du tout, mais l'animisme continue à faire partie de ton travail?
Alors c'est très étonnant parce que c'est vrai qu'en effet depuis que j'ai commencé les Beaux-Arts, en fait j'ai énormément lu de critiques liées au cinéma. J'en lis même beaucoup plus que des critiques liées à l'art contemporain, donc c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Je pense que c'est plutôt une considération sur la question de la consistance de l'image, et du coup pas forcément faire des films, mais garder toujours ces questions en tête quand je pense mes objets. Et indéniablement, il y a encore pas longtemps, j'ai encore re-regardé le grand verre de Duchamp. Et pour moi, il est déjà question de ces questions-là sur une surface en deux dimensions. Comment il arrive à faire exister plusieurs temporalités, plusieurs mondes, de la fiction, du désir. Voilà. Pour moi, toutes ces questions, elles peuvent être aussi reprises dans des formes pas forcément filmées.
Ben voilà, merci Stéphanie pour ton intervention.